VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du vendredi 14 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord les titres. Au Soudan, le conseil militaire au pouvoir a donné une conférence de presse hier à Khartoum. Nous retrouverons notre correspondante sur place, Patricia Huyo. Le comité d'urgence de l'OMS tient aujourd'hui une réunion sur l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 1400 morts en RDC et s'est étendue maintenant à l'Ouganda. En visite hier à Sobanda, théâtre du massacre de dimanche dans le centre du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a récusé tout conflit interethnique dans son pays. En Guinée, 28 personnes ont été blessées hier lors d'une manifestation à Yaoundé contre un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. Les États-Unis ont accusé l'Iran d'être responsable des attaques de jeudi contre deux pétroliers dans le golfe d'Oman. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Donc, le conseil militaire de transition au pouvoir au Soudan depuis la destitution du président Omar el-Béchir a donné hier une conférence de presse à Khartoum. Tout de suite, pour un compte-rendu, notre correspondante sur place, Patricia Huyo.
Le conseil militaire de transition a reconnu avoir ordonné la dispersion d'une partie du sit-in le 3 juin, car selon les militaires, des activités illégales s'y déroulaient. Le CMT nie cependant avoir ordonné le massacre qui a été commis et a entraîné la mort de plus d'une centaine de personnes. Il admet que des erreurs ont été commises et a déclaré que les résultats d'une enquête interne seront publiés samedi. Le conseil militaire a aussi affirmé qu'il y avait eu deux tentatives de coup d'État et que la coupure du réseau Internet était nécessaire pour la sécurité du pays. Il a présenté la coalition d'opposition comme divisée et arrogante. Et bien qu'il se dise prêt à reprendre les discussions, il affirme aussi douter que celle-ci puisse aboutir. Peu de signes de compromis donc du côté des militaires, alors que les représentants de la société civile continuent de demander que leurs conditions soient remplies avant d'accepter de reprendre les négociations. Parmi celles-ci, le rétablissement d'Internet, la démilitarisation des rues de Khartoum et la reconnaissance par le conseil militaire de sa responsabilité dans le massacre du 3 juin. Patricia Huon, Khartoum, VOA Afrique.
En Algérie, depuis la démission forcée du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, la justice a lancé des enquêtes et placé en détention provisoire d'anciens responsables ainsi que des hommes d'affaires influents, notamment pour des faits de corruption présumés. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
L'ex-premier ministre Abdelmalek Asselal a été écroué depuis hier par un juge d'instruction qui l'a placé en détention provisoire dans des affaires de dilapidation des deniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'indus privilèges. La veille, les mêmes chefs d'accusation ont été retenus contre Ahmed Ouaya, ancien ministre et proche de Bouteflika. Ces deux anciens chefs de gouvernement se retrouvent dans la même prison dans la banlieue d'Alger. Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ex-président et deux ex-chefs chef de service de renseignement, les généraux Mohamed Medjene, dit Toufik, et Atman Kartag, alias Bachir, ont été eux aussi placés en détention provisoire. À la fin avril, le ministre des Finances, Mohamed Loukal, ancien gouverneur de la Banque centrale, a été entendu par le parquet, tout comme l'ex-patron de la police, Abdelghani Hamel, limogé en juin 2018. Toutes ces arrestations ne semblent pas convaincre les manifestants qui réclament toujours le départ de ce qu'ils appellent le système Bouteflika. Et pour la 17e semaine, ce vendredi, vont encore descendre dans les rues.
L'Organisation mondiale de la santé a convoqué une réunion en urgence ce vendredi sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo qui s'est étendue à l'Ouganda voisin. Dans une étude publiée hier, des chercheurs estiment que la moitié des foyers d'Ebola qui ont éclaté depuis la découverte du virus en 1976 sont passés inaperçus car ils ne touchaient qu'un tout petit nombre de patients. Jacques Aristide.
Mieux repérer ces foyers permettrait de les juguler à la source et donc d'être sûr qu'ils ne se transformeront pas en épidémie en se propageant un grand nombre de personnes, indiquent ces scientifiques dans la revue Neglected Tropical Diseases. L'OMS doit décider aujourd'hui s'il faut augmenter le niveau d'alerte après que l'épidémie qui a surgi en août dernier en RD Congo s'est étendue à l'Ouganda où elle a fait 2 morts. Les chercheurs se sont basés sur des données provenant de Sierra Leone et de la Guinée pour la période 2013-2016, ils affirment qu'il faut investir davantage pour assurer un meilleur diagnostic et un meilleur contrôle d'Ebola au niveau local. Car, disent-ils, les réponses internationales aux épidémies sont certes importantes mais souvent lentes, compliquées et onéreuses. En RDC, l'épidémie actuelle a déjà fait plus de 1300 morts. La lutte contre la maladie dans ce pays est compliquée par la méfiance des populations envers les soignants qui s'est soldée par des attaques armées contre des équipes médicale sur le terrain.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a récusé toute notion de conflit interethnique et promis la confiscation des armes illicites dans le centre du pays, ensanglantées par les violences entre communautés. Il a tenu ses propos hier quand il s'est rendu au village Dogon de Sobanda, où 35 personnes, dont 24 enfants, ont été tuées dimanche dans une attaque. Nous reviendrons sur le déplacement du président Ibeka à Sobanda, en seconde partie de cette édition. Au moins 28 personnes ont été blessées hier à Nzérékoré, dans le sud de la Guinée, lors d'une manifestation contre l'intention prêtée au président Alpha Condé de modifier la constitution pour pouvoir briller en troisième mandat. Le point avec Lionel Gahima.
À l'hôpital, nous avons reçu 22 blessés et dans une clinique privée, 6 blessés ont reçu des soins, a déclaré hier un médecin de Nzérékoré sous couvert d'anonymat. Des opposants ont voulu se rassembler pour s'opposer à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes et de matraques. Pourtant, les partisans d'un troisième mandat ont pu manifester sans encombre lundi dans la même ville. Ancien opposant et premier président démocratiquement élu de la Guinée, Alpha Condé, dont le deuxième mandat s'achève en 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation des mandats, 2 au maximum, dans son pays. Il n'a pas encore énoncé clairement son intention, mais son premier ministre Kassori Fofana a dit fin mai que l'ensemble du gouvernement est en faveur d'un changement de la loi fondamentale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La US Navy a publié une vidéo montrant, selon elle, une patrouille des gardiens de la Révolution en train d'enlever une mine ventouse non explosée sur une paroi de l'un des pétroliers norvégiens et japonais attaqués hier dans le Golfe d'Oman. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit sans ambages que le gouvernement des États-Unis estime que la République islamique d'Iran est responsable des attaques de ce jour en mer d'Oman. Il a ajouté « Ces attaques non provoquées présentent une menace claire à la paix et à la sécurité internationale, un assaut flagrant sur la liberté de navigation et une campagne inacceptable d'escalade de la tension par l'Iran ». Les États-Unis fondent leurs conclusions sur des renseignements, les armes utilisées et ce que M. Pompeo a appelé le savoir-faire requis pour mener à bien une telle opération. Il a par ailleurs noté que l'Iran était derrière de récents incidents similaires. Selon Mike Pompeo, aucune organisation au service d'une puissance dans la région n'a les ressources ou la capacité requise pour attaquer un pétrolier avec un tel degré de complexité. Son homologue iranien Javad Zarif a démenti ces accusations, disant que ces dernières attaques apparentes sont plus que suspectes parce qu'elles ont coïncidé avec la rencontre en Iran entre le premier ministre japonais Shinzo Abe et le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei qui discutaient des moyens de relâcher la tension entre Washington et Téhéran. Mais M. Pompeo estime que les Iraniens avaient insulté le Japon en attaquant un des tankers de ce pays alors que M. Abe était chez eux.
Ici à Washington, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a condamné le président républicain Donald Trump pour avoir dit dans une interview à ABC qu'il serait prêt à accorder, à accepter des informations compromettantes de puissances étrangères sur son ou sa rivale pendant la présidentielle de 2020. De tels propos devraient indigner tout le monde dans ce pays, a dit Madame Pelosi. Et M. Trump a lui-même cherché à clarifier ses remarques hier en écrivant dans un tweet qu'il parlait tous les jours à des gouvernements étrangers. Devrais-je immédiatement appeler les FBI pour leur rendre compte de ses appels et de ses rencontres, a-t-il ironisé. C'est ridicule. Le président américain a également accusé ce qu'il a encore appelé les fake médias de rarement mettre en avant dans leur intégralité ses réponses. Côté républicain, très peu d'élus ont accepté de commenter publiquement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Fonds monétaire international approuve le décaissement de 248,15 millions de dollars au titre de facilité de crédit en faveur de l'Angola. Selon cette institution financière, les autorités de Luanda ont démontré leur ferme attachement aux politiques du programme soutenu par le FMI. Cependant, un environnement extérieur affaibli, notamment la volatilité accrue du prix international du pétrole brut, constitue un défi pour leurs efforts de réforme. L'Éthiopie pourrait avoir besoin de 2,2 milliards de dollars pour moderniser son secteur des télécommunications en crise. Le gouvernement éthiopien envisage d'octroyer des licences à des multinationales de la téléphonie mobile d'ici décembre, dans l'espoir qu'elles seront opérationnelles l'année prochaine. Ces efforts pour créer un environnement propice aux investissements privés pourraient aider le pays à rééquilibrer son économie. Pour terminer, la Tunisie va recevoir du Fonds monétaire international 24 millions de dollars au titre de la sixième revue du programme du mécanisme élargi de crédit. Ce nouveau décaissement ouvre la voie à l'émission par le pays de 800 millions de dollars d'euros obligations destinées à financer le déficit budgétaire du pays qui devrait atteindre 3,9% du PIB cette année contre environ 5% l'an dernier.
Les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Wydad Casablanca réclame le titre de champion d'Afrique.
Oui, le club marocain a décidé de contester la décision de la CAF de faire rejouer sur terrain neutre la finale retour de la Ligue des Champions et réclame le titre de champion. Le Wydad va saisir le tribunal arbitral du sport pour obtenir gain de cause, a déclaré son président Saïd Nassiri. L'Espérance de Tunis compte elle aussi saisir le TAS pour contester la décision de la CAF. Pour rappel, le 1er juin, l'Espérance avait été sacré champion d'Afrique dans la confusion après que son adversaire marocain a quitté la pelouse pendant le match retour de la finale suite à un litige sur un but refusé par l'arbitre. Alors que l'assistance vidéo à l'arbitrage était en panne, 4 jours plus tard, la CAF a décidé que le match serait rejoué sur terrain neutre en estimant que les conditions de jeu et de sécurité n'étaient pas réunies.
Andy Delors remplace Belkebla dans l'équipe d'Algérie.
Oui, l'attaquant de Montpellier a été choisi pour remplacer le milieu de terrain Haris Belkebla, exclu. Andy Delors avait indiqué en mai vouloir jouer pour l'Algérie avec l'espoir d'être sélectionné pour la CAN, mais il ne figurait pas dans la liste initiale des 23 choisis fin mai pour participer à la compétition qui débutera le 21 juin en Égypte. Haris Belkebla a été mis à l'écart pour des raisons disciplinaires après avoir exhibé son postérieur sur Internet d'après la Fédération algérienne de football. Alors qu'un de ses coéquipiers jouait à un jeu en ligne sur un réseau, Belkebla apparaît à l'écran et ses deux culottes, visiblement pour le déconcentrer. La FAF précise que la décision du sélectionneur Jamel Belmadi a pour but de maintenir la discipline au sein du groupe.
Sur le marché des transferts, Moussa Djenepo rejoint Southampton.
L'ailier malien a quitté la Jupiter Pro League pour le championnat d'Angleterre. Sauvé in extremis en première ligue cette saison, Southampton a officialisé l'arrivée de Moussa Djenepo. Après 2 ans et demi passés au Standard de Liège, il a paraphé un contrat de 4 ans contre environ 20 millions d'euros. Présentement en stage de préparation pour la CAN avec les Aigles maliens, Moussa Djenepo va rejoindre son nouveau club après la compétition. Autre nouvelle de transfert, le latéral franco-sénégalais de l'Olympique lyonnais Ferland Mendy a signé au Real Madrid pour les 6 prochaines années contre 48 millions d'euros hors bonus. En basketball, Idrissa, Toronto a décroché son premier titre de champion NBA.
En effet, Toronto a mis fin au règne de Golden State sur la NBA en remportant le premier titre de son histoire après sa victoire 114-110 sur le parquet des Warriors hier. Les Raptors ont remporté la finale 2019 sur le score de 4-2 au terme d'un match numéro 6 palpitant. Leur sacre est une première pour une équipe non américaine. Ce match numéro 6 s'est joué sans Kevin Durant.
Le verdict tant redouté est tombé pour l'ailier des Warriors. Kevin Durant souffre d'une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite et sera éloigné des parquets pendant de longs mois. Durant, 30 ans, s'est blessé lors du match numéro 5 de la finale entre Golden State et Toronto. Sa blessure a déclenché une polémique car il n'avait plus joué depuis un mois et soignait une déchirure au mollet droit depuis le 8 mai. Certains observateurs ont accusé les Warriors d'avoir joué avec sa santé, une accusation que Durant a lui-même balayée après son opération.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, manifestation hier à Kinshasa, des militants de la coalition Lamuka, plateforme de l'opposition qui avait appuyé la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle du 30 décembre dernier. Les manifestants ont protesté contre les arrêts de la Cour constitutionnelle qui a invalidé au total 33 députés et sénateurs de leur camp depuis le début du contentieux électoral. Martin Fayulu a souligné pour sa part que les manifestations se poursuivront tant que la Cour ne reviendra pas sur ses arrêts. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Réhabiliter les députés de Lamuka, scandaient ces femmes sur le boulevard du 30 juin en plein centre-ville de Kinshasa. Elles ont été rejointes sur leur chemin par une centaine de militants de ce regroupement de l'opposition. L'un des militants s'exprime.
Les arrêts sont dictés par M. Kabila. Vous avez vu même le silence de Tshilombo. Et Lamuka qui a été voté à 90%, nous avons décidé de prendre les choses à main. Et le 30 juin, nous donnons le rendez-vous dans tout le pays. Nous allons bouger le pays jusqu'à demander la démission pure et simple de M. Tshilombo, parce qu'en réalité, la Cour a remis en doute les élections à tous les niveaux.
33 députés et sénateurs de la plateforme Lamuka ont été invalidés au profit de ceux du Front commun pour le Congo depuis le début du contentieux électoral. Franck Diongo, l'un des leaders de Lamuka, s'interroge.
En invalidant 33 députés et sénateurs uniquement de l'opposition, comment y a-t-il la coïncidence dans toutes les circonscriptions du pays? Comment il n'y a que les gens du FCC qui gagne les procès, pas l'opposition.
En réaction, Némi Mwilanya, le coordonnateur du Front commun pour le Congo, affirme que le regroupement politique de Joseph Kabila a également perdu une dizaine de députés invalidés par la même Cour constitutionnelle.
Le FCC compte à ce jour 10 invalidations dans ses rangs. Alors, finalement, qui doit se plaindre de l'action de la Cour? Je crois que quand on accorde le rôle de l'arbitre à une institution, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle distribue des bonbons d'un côté et le feu de l'autre. Certainement qu'elle joue son rôle d'arbitre. Lamuka compte plus de 70 députés. Et donc si on en a invalide 20, ça signifie qu'on en a validé une cinquantaine. Et au niveau du Front commun pour le Congo, c'est la même chose. Autant il y a des validations, autant il y a des invalidations.
La Cour constitutionnelle poursuit pour sa part la publication de ses arrêts. Et Martin Fayulu, joint par Top Congo FM, a promis que les manifestations de Lamuka se tiendront jusqu'à ce qu'une vraie justice sera rendue.
À toutes les Kinoises et à tous les Kinois qui ont répondu à notre mot d'ordre de venir faire le sit-in à la Cour constitutionnelle, c'est de leur dire félicitations. Nous avons vu la détermination des Congolaises et des Congolais. Et donc, nous disons que nous continuons le sit-in jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle va nous dire exactement ce qu'elle a fait. Nous voulons la vérité des urnes et rien d'autre.
Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta était hier à Sobanda pour présenter les condoléances de la nation aux populations du village Dogon du centre où un massacre a eu lieu pendant le week-end. Compte rendu de notre correspondant Mamadou Bokoum.
Cette visite du président Ibrahim Boubacar Keïta intervient à un moment où les populations de Soubanda sont en train de faire leur deuil. Ibeka était venu présenter les condoléances de la nation à cette population meurtrie. Il a appelé à l'union sacrée.
Je pense que le temps du sursaut est largement venu. Ce que nous avons vu sera judicieusement exploité à tous égards. Pour l'heure, je dirais simplement que les regards ne se tournent pas vers où ils ne doivent pas se tourner. Il n'y a aucune espèce de conflit interethnique dans notre pays. Et les jours qui viennent nous en donneront encore la preuve. Qu'il y ait des manipulations et des actes odieux aux fins de déstabiliser le Mali, oui. Mais ceux-là seront contrecarrés, ces actes-là. Ils seront contrecarrés et de la plus belle des façons. Je crois que nos équipes à l'œuvre, aussi bien les équipes du pôle antiterroriste que nos forces armées et de sécurité, tous sont déterminés à ce que nous touchions du doigt, ce qui, dans ce centre Mali, empêche notre pays de tourner en rond. Que nous soyons en train d'aller vers l'épilogue d'un temps très très douloureux pour le Mali. Encore une fois, en m'inclinant pieusement sur la mémoire de tous ceux qui ont été martyrisés à ce moment-là et qui ont perdu la vie dans des conditions d'inhumanité absolue. Que tout cela nous serve de leçon pour que nous opérions le sursaut salvateur. Ce sursaut seul qui, au jour d'aujourd'hui, doit être le souci de tous les Maliens, la survie du Mali.
Soubanda est un village à 100% catholique. C'est pourquoi le cardinal Jean Gerbaud a effectué le déplacement avec la délégation présidentielle. L'archevêque de Bamako rappelle les valeurs ancestrales et demande aux uns et aux autres de se pardonner.
Moi, ce que je voudrais que l'on retienne, c'est que c'est quelque chose d'assez grave. Parce que quand on parle des conflits qui sont donnés là, et j'ai eu l'impression que ces conflits viennent du fait qu'on a plus de respect pour nos valeurs ancestrales, le Sénénkouya, le bon voisinage. C'est vrai, le vivre ensemble est difficile, mais que ça atteigne ce seuil-là, où ce n'est plus un mort, ce n'est plus deux morts, c'est par trentaine. Mais c'est extrêmement grave. Même si c'était un seul mort, c'était trop. Alors venir en ce lieu, c'est d'abord donner une occasion de recommander au Seigneur toutes les victimes. Depuis le début de ce conflit, conflit du Nord, qui parcourt tout le Mali maintenant, et qui se concentre aussi dans cette zone de Mouto, Kidal et la région de Mopti. Toutes les victimes, civiles, militaires, quelles que soient leurs fonctions. Nous pensons aussi justement aux familles, nous pensons aux orphelins. C'est tout ça que je revoyais aujourd'hui.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est ensuite rendu à l'hôpital Sominé de l'eau au chevet des malades de l'attaque de Soubanda pour les apporter le soutien de l'État. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Au Bénin, l'axe Cotonou-Parakou a été bloqué, plus aucun véhicule sur cette route qui relie le nord au sud du pays. Il y a eu plusieurs incidents signalés à Tchouarou, le village natal de l'ex-président Thomas Boni Yaït, dans une sorte de résidence surveillée à Cotonou. Notre confrère Rodrigue Azinongbe joint hier à Parakou.
Depuis lundi dernier, c'est une situation un peu difficile au niveau de la ville de Tchaourou, qui est située à un peu plus de 350 km de Cotonou. En fait, tout est parti suite à l'arrestation de 4 personnes qui seraient impliquées dans les événements du jour des élections législatives. Donc, ces arrestations ont provoqué la colère au niveau de la population qui manifeste et qui ont bloqué la voie depuis quelques jours. Donc, hier déjà, la situation était quasi insurrectionnelle avec les policiers qui ont totalement quitté la ville parce que les affrontements étaient devenu très sérieux avec les populations. Et depuis quelques heures, ce sont les chasseurs traditionnels qui ont pris le contrôle de la ville de Tchaourou, avec la population qui est totalement terrée chez elle. Personne n'est dehors à part les chasseurs qui tirent en l'air. Et ce matin déjà, un fort contingent de militaires a pris la route de Tchaourou depuis Cotonou, en renfort à quelques militaires qui étaient sur place. Donc les militaires sont déjà aux abords de la ville de Tchaourou, où tout le monde retient son souffle. On attend de voir comment ça va se passer. Est-ce que les négociations entre les différents parties vont aboutir, ou bien est-ce qu'il y aura une intervention de l'armée pour mettre fin au blocus de la route inter-État numéro 2 qui relie Cotonou à Malanville, au nord du pays. On attend de voir ce que cela va donner.
Notre confrère Rodrigue Azinombe joint hier à Parakou, dans le nord du Bénin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Algérie, et nous vous le disions en première partie, depuis la démission forcée du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, La justice a lancé des enquêtes et placé en détention provisoire d'anciens responsables ainsi que des hommes d'affaires influents, notamment pour des faits de corruption présumés. Les réactions de la population dans ce reportage à Alger de notre correspondant Merdi Aliou.
Ils étaient ex-ministres, responsables locaux et hommes d'affaires sous le règne de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ils sont désormais derrière les barreaux après avoir été entendus dans des enquêtes pour corruption, dilapidation de deniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'indus privilèges. Après Ahmed Ouyahia, c'est au tour de Abdelmalek Sillal et Amara Ben Younes, respectivement ex-premier ministre et ex-ministre du commerce, d'être placés sous mandat de dépôt à la prison Al-Harrach dans la banlieue d'Alger. Est-ce le sursaut d'une justice désormais libre, comme le répétait Gaït Salah, nouvel enfant de la Algérie, ou plutôt une comédie à laquelle joue le pouvoir en place pour se régénérer. Pour l'avocat Abdelghani Badi, dans une déclaration à VOA Afrique, le pouvoir ne fait que sacrifier des têtes pour calmer le mouvement populaire.
Ce pouvoir est comme un corps qui se débarrasse peu à peu des organes infectés pour survivre. Il veut aussi convaincre l'opinion publique qu'il y a un réel changement depuis la chute de Bouteflika. La vérité est que ce système est toujours le même, mais subit des conflits internes, des règlements de comptes. Il s'auto-dévore pour survivre. Il joue ses dernières cartes en abattant des têtes.
Dans la rue, les Algériens ont bien accueilli les nouvelles des arrestations de ces ex-responsables. Néanmoins, de leur avis, le mouvement populaire ne doit pas cesser, puisque cette justice fonctionne toujours au téléphone. Khaled, jeune citoyen algérien, en veut pour preuve le manque de transparence sur ces affaires.
Bien sûr, en tant que citoyen, on est en train de suivre de près les affaires en justice qui se déroulent actuellement au niveau de la Cour suprême. Malgré il y a peu d'informations qui sortent, mis à part ce que publie la presse nationale. Ce qu'on demande, c'est une clarté et une transparence dans les jugements et on veut que ces juges et cette justice rendent publics les détails du jugement.
Mehdi Alioui, VOA Afrique, Alger.
Ici aux États-Unis, la décision du président Donald Trump d'engager un bras de fer avec la Chine sur le déficit de la balance commerciale bénéficie du soutien unanime du Congrès. Cependant, des aspects de son approche suscitent le doute et la résistance auprès de certains législateurs. Le reportage de Michael Bauman, présenté par Lionel Gahima.
La Chine était l'un des soucis majeurs du président Trump quand il s'était adressé aux deux chambres du Congrès en février 2017.
Nous avons perdu 600 000 manufactures depuis que la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce.
Tout comme lors de ses récents meetings politiques.
Si donc j'ai annoncé que nous augmenterons les droits de douane sur les produits chinois et nous n'allons pas reculer jusqu'à ce que la Chine cesse de tricher et de voler nos emplois.
Les précédentes administrations américaines avaient, elles aussi, décrié les pratiques commerciales chinoises. Cependant, le président Trump est le premier leader américain à prendre des mesures de retorsion, ce qui lui vaut des applaudissements des législateurs, comme le sénateur républicain James Reed.
We won't stand for our ideas and technologies being stolen.
Si nous ne nous défendons pas contre le vol de nos idées et de nos technologies, nous ne pourrons pas empêcher que nos concitoyens perdent leur emploi et fassent les frais d'une compétition déloyale.
Un avis que partage Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.
Nous devons faire quelque chose concernant la Chine, sinon l'Amérique ne sera plus une puissance économique forte d'ici 10 ou 15 ans.
Pourtant, certains républicains s'inquiètent des conséquences de la guerre commerciale, dont la sénatrice républicaine Joni Ernst.
Un emploi sur cinq dans l'État de l'Iowa dépend directement du commerce.
Ériger de nouvelles barrières commerciales avec des droits de douane et des quotas ne constitue pas une solution à long terme, d'après le sénateur républicain Chuck Grassley. Les querelles tarifaires avec le Canada, le Mexique, l'Europe et le Japon ont affaibli la position américaine dans les négociations avec la Chine, estime de son côté le sénateur démocrate Chuck Schumer. Le président Trump entend malgré tout poursuivre sa stratégie, car selon lui, c'est un excellent outil de négociation et génératrice de revenus.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.